Et les matins se poursuivent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À Rome, hier soir, le pape François a appelé les catholiques du monde à abandonner leur voracité consumériste. Pendant ce temps-là, au Pakistan, Asia Bibi, cette chrétienne condamnée à mort pour blasphème, a passé son premier Noël de liberté. Tandis qu'au Venezuela, les fêtes de fin d'année sont difficiles à cause notamment de la pénurie.
Et puis en Chine, certaines localités continuent de faire la chasse. À Noël, des inspecteurs traquent les guirlandes, les sapins, les Pères Noël pour lutter contre ce qu'elles considèrent comme une tradition occidentale.
En France, certains gilets jaunes ont passé le réveillon dehors, nous entendrons l'un d'eux. Alors que l'INSEE publie le chiffre de l'épargne des Français en 2018, il n'y a jamais eu autant d'argent dormant sur les comptes.
La police scientifique appelée à la grève en ce jour de Noël pour une durée illimitée, ses agents effectuent des missions difficiles mais ne sont pas considérés à l'égal de leurs collègues.
Enfin, nous partirons au Japon, à la fin de ce journal, le Japon qui pourrait réautoriser la pêche à la baleine. Revenir à l'essentiel, la charité et le partage face à l'accumulation des biens matériels. C'est le message qu'a lancé hier soir le pape François aux 1,3 milliard catholiques dans le monde, dans son homélie de la messe de Noël célébrée à minuit en la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François qui a déploré à nouveau cette année, avec encore plus de force, la voracité consumériste, dit-il, de ses contemporains. À Rome, le reportage de Mathilde Imberti.
Le thème lui tient à cœur et le pape François alerte dès qu'il le peut sur la consommation excessive. Ce n'est pas Noël si nous nous gavons de cadeaux et de repas sans aider un pauvre, prévenait-il la semaine dernière en pleine course de Noël. Un appel à la modération renouvelé hier soir dans l'atmosphère de recueillement de la basilique Saint-Pierre. Il dénonce la voracité consumériste.
L'homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble être pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine. Ainsi qu'à quelques-uns se livrent à des banquettes tandis que d'autres n'ont pas de pain pour vivre. Demandons-nous, ai-je vraiment besoin de beaucoup de choses, de recettes compliquées pour vivre? Est-ce que j'arrive à me passer de tant de garnitures superflues pour mener une vie plus simple? Demandons-nous à Noël, est-ce que je partage mon pain avec celui qui n'en a pas?
Le pape argentin fait l'éloge de la simplicité en cette nuit de Noël avant de retrouver pour un court moment de repos son petit appartement dans la résidence Sainte-Marthe. Il est attendu à midi pour la bénédiction Urbi et Orbi, sa sixième, à 82 ans, un programme soutenu qu'il respecte sans montrer de signe de fatigue.
Mathilde Imberti. Ambiance différente en Chine. Si le pays est en passe de devenir le plus grand pays chrétien du monde, cette année encore plusieurs municipalités chinoises interdisent tout bonnement les célébrations de Noël. Ironique quand on sait que le pays est le plus gros fabricant mondial de boules de Noël. Mais alors que de plus en plus d'enfants chinois se mettent à croire au Père Noël, les autorités tentent de contrecarrer à la fois le développement de la religion chrétienne et celui de la culture dite occidentale. Dominique André.
Pour prendre le contre-pied de Noël, la municipalité de Langfang, près de Pékin, a monté une brigade d'inspecteurs qui traque les Pères Noël. Les guirlandes, les sapins, les boules et autres symboles traditionnels sont interdits dans les magasins dont les vitrines ne doivent pas être décorées, ainsi que les rues et les places de la ville. La répression contre Noël n'est pas nouvelle en Chine. Elle a commencé dans les régions où sont implantées les communautés catholiques, notamment dans l'est du pays, à Wangzhou. Mais le fait est, malgré ces restrictions, Noël gagne le cœur des Chinois, c'est désormais beaucoup plus qu'une folie consumériste. Face au rouleau compresseur de la culture occidentale qui gagne du terrain en Chine, Xi Jinping a entrepris de défendre les valeurs traditionnelles chinoises. Le Père Noël en est victime, mais apparemment n'a pas dit son dernier mot. Il suffit de se promener dans les rues des grandes villes chinoises pour sentir la fièvre de Noël.
Autre région du monde où Noël se fête dans des conditions difficiles, le Venezuela. Comme l'année dernière, le pays est touché par la pénurie, et notamment la pénurie de pernil, le plat traditionnel de Noël, un jambon à l'os. Juste avant les élections municipales du 9 décembre dernier, le gouvernement avait pourtant promis que chaque famille vénézuélienne aurait au moins un pernil pour les fêtes. Mais la promesse n'a pas été tenue et la distribution a été chaotique. Reportage dans un quartier populaire de Caracas de notre correspondant Benjamin Delisle.
Ce matin, dans le barrio La Vega, l'électricité est coupée et il n'y a plus de signal téléphonique. Mais ce n'est pas ce qui agace les habitants au centre des conversations, la distribution du fameux pernil à quelques jours de Noël. Maria, une habitante du quartier.
La distribution était totalement désorganisée. Cela s'est fait tard le soir, on nous a prévenus au dernier moment, sans préciser qu'il fallait payer en espèces. Beaucoup de gens n'en avaient pas, essayaient d'en emprunter, c'était mal organisé.
Plusieurs raisons à cette désorganisation, la pénurie d'abord, mais aussi la corruption. Les collectivos, des gangs proches du pouvoir, se sont servis avant la distribution. À cela, il faut ajouter le rôle du gouvernement qui a utilisé le jambon à l'os pour faire du chantage électoral, selon le prêtre du quartier, Alfredo Infante.
Le pernil au Venezuela, d'un point de vue culturel, c'est l'équivalent de la dinde pour Thanksgiving aux États-Unis. Le gouvernement s'en est servi pour les élections municipales du 9 décembre en disant: si tu votes, tu vas passer un bon Noël, car tu auras un pernil.
Finalement, rares sont les Vénézuéliens à profiter du précieux jambon pour les fêtes. D'autant que bien souvent, ceux qui l'ont reçu l'ont déjà mangé, car ils n'avaient que ça pour se nourrir.
Le Venezuela, où le FMI prévoit une inflation de 10 millions de % l'année prochaine et d'où 2 300 000 personnes ont fui depuis 2015. Elle n'a pas passé Noël en prison et c'est la première fois depuis 9 ans. La chrétienne pakistanaise Asia Bibi est toujours au Pakistan, en revanche, pays qu'elle espère fuir rapidement. Le Pakistan où, bien que la Cour suprême l'ait graciée et libérée des couloirs de la mort où elle avait été enfermée pour blasphème, des milliers de musulmans extrémistes appellent toujours à sa mise à mort. Fiona Mogadam.
C'est avec son mari qu'Asia Bibi passe Noël. Un Noël fantastique, dit la présidente de son comité de soutien en France. Fantastique comparé à ceux passés ces 9 dernières années. Anne-Isabelle Tolley.
Même si elle n'est pas encore à l'extérieur du Pakistan, à l'extérieur du pays, elle est libre. Donc elle est certes en résidence, sous haute sécurité, mais elle va pouvoir passer Noël avec son mari plutôt que dans sa cellule microscopique.
Si Asia Bibi doit être exfiltrée vers l'étranger, c'est parce que sa vie est menacée par des islamistes radicaux au Pakistan. Tout est parti d'une dispute avec deux femmes musulmanes il y a 9 ans qui l'ont accusée de blasphème, passible de la peine de mort dans le pays.
Elle est devenue malgré elle un emblème pour ces islamistes quant à la loi du délit de blasphème. Et ils estiment que si elle sort libre du Pakistan, ce sera une défaite et une victoire pour l'Occident contre l'islam. Donc ils ont le sentiment qu'à travers Asia Bibi, la liberté d'Asia Bibi et le fait qu'elle quitte le territoire pakistanais, c'est la victoire de l'Occident, donc des chrétiens contre les musulmans.
Mais le comité de soutien d'Asia Bibi en France reste optimiste sur l'issue de cette histoire et ne doute pas que la quinquagénaire chrétienne retrouvera très vite sa totale liberté en dehors du Pakistan.
Fiona Mogadam. Il y aura des élections législatives anticipées en Israël. C'est Benjamin Netanyahou qui l'a annoncé hier après que la coalition au pouvoir fragile a décidé de dissoudre la Knesset. Netanyahou qui briguera donc un cinquième mandat. Le chef du Likoud pourrait aussi vouloir éviter que la justice ne le rattrape pour une troisième histoire de corruption. Une attaque meurtrière, une de plus à Kaboul. Cette nuit, des hommes armés ont pris d'assaut pendant plus de 7 heures le ministère des Transports publics en tuant 43 personnes. Une attaque intervenue après l'annonce surprise du prochain retrait de quelques 7000 des 14000 soldats américains présents en Afghanistan. Annonce saluée par certains talibans. L'attaque n'a pas été revendiquée. La plupart des victimes sont des civils.
8h09, la suite des matins de France Culture avec le journal d'Anne-Laure Chouin, le Noël des Gilets jaunes. Tous n'ont pas abandonné la mobilisation, ils sont quelques-uns à avoir préféré rester sur les ronds-points plutôt que de passer Noël en famille.
C'est par exemple le cas Artix dans le Béarn. Bien que délogés du rond-point qu'ils occupaient, ils ont déménagé sur un terrain privé de la commune. Ils ont passé une partie de la nuit d'hier à cet endroit. Parmi eux, Eliane, une retraitée qui a décidé de passer le 25 décembre avec sa nouvelle famille, dit-elle, sa famille de gilets jaunes. Écoutez-la au micro de Najat et Sadouki.
C'est la première année où je ne fêterai pas Noël, puisque j'ai décidé de rester avec les gilets jaunes et de partager le peu qu'on peut partager ensemble. On n'a plus rien à perdre, nous, maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, Noël, pas Noël, à l'heure d'aujourd'hui, on veut juste être entendu. Le 25, je réveillonne en famille, avec mon fils, avec toute ma famille, mes frères et sœurs, tout ça. Non, aujourd'hui, je vais rester. ici. C'est une autre famille. Parce que depuis le 17, on s'est rendu compte tous qu'on avait perdu aussi peut-être un esprit de solidarité et qu'on a retrouvé. Je pense que le gouvernement, il aura du mal à faire quelque chose parce que cet esprit de solidarité, il ne peut plus l'enlever. Il faut qu'il comprenne et qu'il arrête de penser que ce n'est pas parce que c'est Noël. Il n'y a pas de trêve dans ce mouvement. Parce que les gens, ils sont tellement à bout. Je crois qu'on est au bout du bout. Donc les gens, ils ne vont pas changer d'opinion parce que c'est Noël. À l'heure d'aujourd'hui, non.
Fin de mois et fin d'année difficile donc pour certains, alors que l'INSEE délivrait hier une série de statistiques, dont celle-là. L'épargne des Français en 2018 s'est établie à plus de 400 milliards d'euros, un record. De l'épargne qui ne rapporte rien, étant donné le niveau actuel des taux d'intérêt. Il ne s'agit pas vraiment d'un placement, les Français y sont toujours allergiques, mais plutôt de l'effet Badlène qui continue après la crise de 2008. Les explications de Laurent Kramer.
Du jamais vu de mémoire de banquier, les Français boudent leurs placements en tout genre, accumulent leurs économies, 14 000 euros en moyenne, sur de simples comptes de dépôt, explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.
Il y a les classes moyennes aujourd'hui qui ont des difficultés pour les fins de mois. Elles conservent de l'argent liquide pour faire face aux dépenses quotidiennes, aux impôts. On laisse l'argent dormir sur le compte courant pour, le cas échéant, l'utiliser si on a un problème, faire face au chômage. Et puis d'autre côté, il y a les retraités qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances en matière de produits financiers, c'est le cas aussi des classes moyennes qui sont très méfiants vis-à-vis des banques, des assurances, et on préfère jouer la sécurité et on ne préfère pas aller sur des produits financiers qu'on ne connaît pas. On stocke de l'argent sur ses comptes courants.
L'argent qui dort sur les comptes en banque des Français a ainsi doublé depuis la crise de 2008, avec des taux d'intérêt au plus bas annoncés encore pour l'an prochain. Seul le prélèvement à la source pourrait inciter les Français à limiter leur épargne de précaution, argent mis jusqu'ici de côté pour payer ses impôts en fin d'année.
Laurent Kramer, il s'estime les oubliés de la police. Les 2400 agents de la PTS, la police technique et scientifique, sont appelés à la grève à partir d'aujourd'hui. Ceux qui interviennent sur les scènes de crime, les accidents graves, les attentats, les pollutions, n'ont pas le même statut que leurs collègues de la sécurité publique ou de la police judiciaire. Et quand ces derniers ont obtenu la semaine dernière des revalorisations salariales, les agents de cette PTS, eux, n'ont rien eu. Ils entament donc aujourd'hui un mouvement de grève illimité pour obtenir notamment une reconnaissance de la pénibilité de leur mission. Jean-Philippe Deniaud.
Ils ne sont pas forcément en première ligne pour le maintien de l'ordre, mais les PTS ne sont jamais très loin derrière. Ils travaillent sur des cadavres, des scènes d'attentats, ils sont en contact avec des matières dangereuses, d'autres passent des journées entières à décortiquer des images violentes sur l'ordinateur. Tous peuvent être appelés en urgence 24 heures sur 24 et ils assurent des astreintes le week-end. C'est cette pénibilité qui n'est pas prise en compte dans nos statuts, dénonce le syndicat indépendant des PTS. Pourtant, cette revendication ne coûterait pas grand-chose à l'État, a calculé Guillaume Groux du SNIPAT.
On peut estimer ça entre 26 et 28 millions d'euros à mettre en rapport avec les 270 millions d'euros qu'ont coûté les premières mesures annoncées au syndicat des gardiens et des gradés il y a quelques jours. Ça ne représente pas une dépense phénoménale. D'autant que nos revendications ne sont pas vraiment salariales.
Évidemment, les 2400 agents de la police technique et scientifique n'ont pas la même visibilité que leurs quelques 140 000 collègues de la sécurité publique et de la police judiciaire. Les syndicats de la PTS ne sont d'ailleurs pas parvenus à être reçus au ministère. Un manque de considération qui les pousse donc aujourd'hui à faire grève pour se faire entendre.
Jean-Philippe Deniaud. En France, 91% des recherches sur Internet passent par le moteur de recherche Google. Or, il existe un autre moteur de recherche européen, celui-là, et qui protège les données personnelles des utilisateurs. Il s'appelle Quant et l'Université de Nantes est la première en France à l'installer sur tous ses nouveaux ordinateurs. Ce sera à la rentrée de janvier. Sonia Bourane.
C'est désormais Quant, un moteur de recherche français et indépendant qui s'ouvrira automatiquement sur les nouveaux ordinateurs de l'Université de Nantes. Francky Trichet, vice-président numérique de l'université, explique les raisons de cette décision.
Aujourd'hui, face aux récentes affaires sur les données avec les grands Google, Amazon, Facebook, etc., on voit bien que les utilisateurs souhaitent avoir un moteur de recherche qui respecte leur vie privée, qui respecte la confidentialité de leur recherche. Et donc là, on voit bien aujourd'hui qu'on a un réel gain et un engagement fort de ce moteur de recherche français, européen, avec cette idée de se dire on a la souveraineté des données puisque tous les serveurs de Quant sont hébergés en France.
Les étudiants sont de plus en plus sensibles à la protection des données. Morgane, en troisième année de médecine à l'Université de Nantes, est favorable sur le principe.
On sait à peu près l'hégémonie de Google actuellement, donc je pense que les étudiants ne peuvent qu'adhérer. Mis à part le fait que Quant ne donnera peut-être pas toutes les solutions de recherche comme Google peut le faire, ça dépend de la recherche en fait. Si la recherche est très poussée, par exemple en médecine, je sais que des fois on fait des recherches sur des maladies qui sont parfois peu référencées dans d'autres moteurs de recherche que Google, c'est pas impossible qu'il y ait un détournement de Quant installé de base.
Chacun sera libre bien sûr de changer les paramètres et d'utiliser Google comme moteur de recherche, mais l'université espère changer les habitudes.
Sonia Bourran. C'est une tradition au Japon, mais une pratique interdite depuis quelques années déjà, la chasse à la baleine. Elle pourrait reprendre si le pays décide, comme il en a menacé, de sortir de la Commission baleinière internationale, la CBI, dans le but d'échapper aux règles de cette organisation. L'annonce officielle devrait être faite le 1er janvier. Les précisions de Sarah Cozzolino.
Il est très rare que le Japon se retire d'une instance internationale, mais le pays tente de relancer la chasse à la baleine depuis de nombreuses années. Pourtant, si la viande de baleine était servie dans les cantines scolaires après la guerre, les Japonais n'en mangent plus ou presque pas aujourd'hui. Alors pourquoi soutenir cette activité? Pour la longue tradition nippone qu'elle représente, selon ses plus fervents défenseurs, comme le Premier ministre Shinzo Abe. La chasse aux cétacés est en effet très soutenue par le gouvernement nippon, qui octroyait 5 milliards de yens, soit 39 millions d'euros, jusqu'en 2017. Ce retrait de la Commission baleinière internationale, prévu pour 2019, inquiète évidemment les organisations de défense des animaux. Greenpeace y voit une grave erreur en décalage avec le reste du monde. Si les baleiniers nippons devraient se limiter aux eaux proches du Japon, les opposants à la décision craignent que l'archipel n'inspire d'autres pays, la Norvège et l'Islande par exemple, qui sont aussi connus pour leur chasse à la baleine.
Sarah Cozzolino, le temps de ce mardi de Noël, il sera calme dans l'ensemble. Un ciel bas et gris sur la façade ouest, plus d'éclaircies sur le nord et l'est cet après-midi et franchement ensoleillé sur le sud-est. Les températures sont en baisse. Comptez ce matin de moins 2 à 2 degrés sur le nord et l'est, 3 à 8 degrés ailleurs. Cet après-midi, les maximales varient entre 5 et 8 degrés du nord aux Alpes, de 9 à 15 degrés à l'ouest et jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée.